Alors, quatrième chapitre de Yirat Hashem. Alors, je reprends. On a fait la semaine dernière, on a lu la Gemara dans Yoma. On la reprend là comme elle est recensée par le Maharal et puis on avance. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rav Shmuel bar Nachmani, Donon Rabbi Yonatan. Maïdir Tiv. Que dit le verset? Lamaze Mechir Biyaksil. Le pourquoi y a-t-il cette chose de prix dans la main de l'imbécile? La suite du verset, excusez-moi. Ein bet amud bet
144.
Lama zevechir beyaksil liknot chorma velevain. Pourquoi, Shulaim? Pourquoi il y a cette chose de prix dans la main de l'imbécile, acquérir la chorma et il n'y a pas de cœur? Oy lahem les sonem shel talmidei chachamim, malheur! Malheur aux talmidei chachamim, shoskim batorah, qui sont investis la Torah et qui n'ont pas la crainte du ciel. Machiz, Rabbi Yenaï. Rabbi Yenaï fait cette publication. Chaval, Alman, de Letle, Darta, Vetara, le Darte, Avid. Dommage pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas de maison, et un péristyle à la maison, ils font. Oui, pourquoi? Parce que la Chochma, c'est l'entrée pour arriver à la crainte de Dieu. Mais la chorma, c'est un moyen, c'est pas un but. Et si tu as la chorma et tu n'as pas la crainte de Dieu, alors ça sert de quoi la chorma? Amarlo Rava le Rabbanan. Rava ideo Rabbanan. Bematuta minaychu. Lotirtu tarteginam. Rava il dit au Rabbanan, je vous en supplie, n'héritez pas deux enfers. Pourquoi? Parce que étudier la Torah, c'est un enfer sur terre. Mais si cet enfer ne t'amène pas au jardin d'Éden, c'est-à-dire que tu n'as pas la crainte de Dieu, après tu auras l'enfer, deux enfers. C'est raval, comme il dit. Raval, c'est dommage, quoi, quand même, entre nous. Voilà. Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Maïdirtiv, que dit le verset? Zot ta Torah, cher Sam Moshe. Voilà la Torah que Moshe a placée. Alors Sam, il fait un jeu de mots. Sam, c'est une potion. Zacha, nasilo Sam Chaim. S'il a eu du mérite, c'est une potion de vie. Lo Zacha, nasilo Sam Mavet. S'il n'a pas de mérite, ça devient une potion mortelle. C'est-à-dire la Torah l'a tué. C'est pas Omar qui m'a tué, c'est la Torah qui m'a tué. Voilà. Vainu damar Rava, et ce qui correspond à ce qu'a dit Rava, Zacha et les Sama de Chaye, s'il a du mérite, potion de vie, Lo Zacha et les Sama de Mouta, s'il n'a pas du mérite, c'est une potion mortelle. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Ketiv. Rav Shmuel bar Nachmani donne Rabbi Yonatan, c'est écrit, Pekoudé Hashem Yesharim Sam Chelev. Le verset dit, les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur. Et un autre verset dit, Imrat Hashem Tserufa, la parole de Dieu, elle est corrosive, elle te brûle. Donc d'un côté, ça réjouit ou ça te brûle? Zacha me samchato, si la mairie de la Torah, ça le réjouit. Lo Zacha Tserfato, la mita, sinon elle le brûle à mort. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, mais gouffé d'écra, d'Afka, il dit, du verset lui-même, on l'apprend, Zahat sorfato le chayim, lo zahat sorfato l'habitat. Ça veut dire, ça te brûle, mais est-ce que ça te purifie ou ça te consume? Voilà. Hein? C'est. Ça veut dire, la Torah, ça peut. La Torah, de toute façon, ça nous gâche la vie. Que les choses soient claires. Hein, que les choses soient claires. Mais si ça nous gâche, est-ce que c'est pour nous purifier ou c'est simplement pour nous gâcher la vie? C'est un grand message d'humanisme. Le matin, au réveil. Au poste final. Comment? Non, mais non, ça c'est le premier qui est voilà. Le premier, il est optimiste, mais le deuxième, Rabbi Shimon ben Lakish, lui dit Tsorfato, ça le consume pour le purifier ou les chayim, ou alors ou simplement ça le tue quoi.
C'est beau. Moi, je sais qu'est-ce que je vais dire au gala. Quoi. C'est voilà, toi, ça gâche la vie aux gens. Donc sponsoriser les jeunes étudiants, c'est une entreprise de gâcher la vie des gens.
Un gala de contrition.
C'est comment ?
Venez souffrir au gala. Souffrance garantie. Mais payant.
On continue. On y va. Irat Hashem Tehora Medet Lahat. La crainte de Dieu est pure, elle tient éternellement. Amar Rabbi Nechunia, la crainte de Dieu est pure, Omedet Lahat, elle se tient éternellement. Amar Rabbi Nechunia, Zealomet Torah Betahara, c'est celui qui étudie la Torah dans la pureté. Maï, Noseisha Vararka Lomet Torah, il épouse une femme et après il étudie la Torah. Parce que quelqu'un, il étudie la Torah, il n'est pas marié, il n'a pas de stabilité, et donc il n'est pas dans la pureté. Edut Hashem Nemana, Markimat Peti, le témoignage de Dieu et de confiance, la Torah, Roch Hacham, le simple, Amar Abichia, Nemenati Laïd Belomdea, la Torah est de confiance de témoigner sur ceux qui l'étudient. Donc ça a l'air d'être que ceux qui étudient la Torah, leur étude transparaît dans leur existence. Ça témoigne, la Torah témoigne sur ceux qui l'étudient. Ok, alors, ça, c'est, on avait vu la semaine dernière, maintenant, on va voir le Maharal. Amar Marazé Balevaer, ce passage vient nous expliquer qui prikutol irat shamayim shayar. Regardez, alors là, il est parti le Maharal, je crois que ce passage va lui plaire. Particulièrement, c'est là que ça commence. Une seconde. Amamar Azé Balevaer. Je crois que là, le Maharal, il va frétiller. Je le sens frétiller. Regardez la première phrase. Amamar Azé Balevaer, qui prikutol irat shamaim shayar betalmit racham yoter meshar bene adam. Ce passage vient nous enseigner que se dégager du joug de la crainte du ciel est particulièrement fréquente chez ceux qui étudient la Torah plus que chez les autres personnes.
Ah oui.
Pourquoi? Ben oui.
Parce que justement, c'est parce que tu étudies que tu peux te dégager. Celui qui étudie pas, il se dégage pas spécialement. Il sait pas.
Elle est particulièrement présente. Chayar, la prikat ol, c'est-à-dire le se dégager du joug de la crainte du ciel est particulièrement adapté est particulièrement lié à ceux qui étudient la Torah du fait qu'ils connaissent leur créateur, le Fikar. Davarze Nircha Prikat Morat Shamayim. Cela est considéré de manière essentielle comme un dégagement de la crainte du ciel. Gorem l'acherim gamken shem porkim ma'iram alehem, ce qui cause donc aux autres de dégager la crainte du ciel d'eux. Oui, pourquoi? Parce que quelqu'un, un monsieur lambda, il ne connaît pas son créateur. On lui a parlé d'Hachem, mais Hachem, disons, on ne parle pas des Français qui sont libres penseurs. On parle de quelqu'un de normal, je veux dire, je ne sais pas moi, un Marocain, voilà, au Maroc. Tout le monde est croyant. Tu dis bonjour à un arabe marocain, il te dit Abdullah, machin, bidule, il est croyant. Bon. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, on est dans un contexte, la plupart des êtres humains, ils sont croyants, disons. Sauf les Français, ils ont inventé des trucs, je sais pas quoi, un peu trop compliqués.
C'est la faute.
Mais la plupart, tu vois, je sais pas, moi, aux États-Unis, les pays anglo-saxons, ou je sais pas, moi, les Allemands, bon, ils sont croyants. Bon, d'accord. Mais quelqu'un, mais avait été Dieu, quelque part, lui fait peur, parce que il y a Dieu. Bon. Mais quelqu'un qui étudie la Torah, il connaît Dieu, puisque il étudie la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, donc il a une familiarité avec Dieu. Donc il n'a plus peur. Parce qu'il le connaît. Ce qui te fait peur, c'est ce que tu connais pas, mais il le connaît. Donc quelque part, il est familier, même il rentre dans la parole de Dieu, il discute dans la parole de Dieu, il te un passo qui te le prend comme ci, un passo qui te le prend comme ça. Donc finalement, il est copain avec Dieu quelque part. Donc il n'y a plus de crainte de Dieu. La crainte, c'est quand tu as peur. Mais là, tu le tutoies même, il le tutoie. Il n'a pas peur. Alors ça a un effet boule de neige, il dit, pas seulement lui, il se dégage de la crainte de Dieu, mais il cause que même d'autres, voyant le Talmid Chacham qui n'a pas peur de Dieu, et ben ça crée même un effet boule de neige, que même les autres ne vont pas avoir peur de Dieu.
Mais là c'est un peu, c'est gentil de dire ça, c'est une fricate hall, vous dites, qui est née de la familiarité.
C'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas de thèse. Moi, moi, je pense rien. Moi. Depuis que je connais Philippe, là, je suis en mode.
J'en pense pas moins.
Moi, je pense rien. Par contre. Oui.
On ne peut pas rejeter ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que vraiment, pour dire qu'on a rejeté, qu'on est pour avec le hall, il faut l'avoir connu un jour. Mais que la prika qui est ici, c'est une vraie prika. C'est-à-dire que c'est pas une cofroute, mais c'est vraiment un rejet complet.
Oui, non, mais lui, regarde, il dit une chose surprenante. Lui, il veut dire, comme d'habitude, le Maharal, il est, on pourrait dire, essentialiste. Il va dans la structure des choses. Le Talmid Chacham. Celui qui étudie la parole d'Hachem. C'est ça son boulot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étudie la parole d'Hachem. Et il est là-dedans. Donc, par définition, il n'a pas peur de Dieu. C'est ce qu'il dit, lui. Il dit... le vicaire d'Avazir n'est pas prikakol. C'est considéré prikakol. C'est pas qu'il est porekol. Tu lui demandes au mec, est-ce que t'as pas la crainte de Dieu? Il dit, mais c'est sûr, je crains Dieu. Le mec, c'est pas. Il va pas te dire qu'il est apikoros. Mais quelque part, le il prend la place de Dieu. Il va dire, tu vois, que dans la Gemara, tu dis, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Tarfon, Mais qu'est-ce que on te demande pas, qu'est-ce que tu penses, on demande qu'est-ce que Dieu y pense. Et Rabbi Tarfon il dit, Rabbi Yoshua ben Levi il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle à la place de Dieu, qu'on coupe pas la parole, on coupe pas la parole de Dieu. Ben oui, ils le font, les mecs. C'est même s'ils veulent pas être pour école, quelque part. C'est quelque part, il n'y a pas la crainte. La crainte, c'est la terreur, comme on a vu dans le chapitre précédent. On va essayer de continuer. Le Fikar d'Avarzien et Chaprikatol, c'est considéré. C'est pas qu'il est, mais c'est considéré. Analytiquement, c'est considéré qu'il dégage la crainte de Dieu.
et qui cause aux autres aussi, qui dégage la crainte de Dieu. Zeshama oilaem la briot. C'est ce que nos maîtres disent. Malheur aux créatures. Shoskim batora, ven baemirat shamem. Malheur aux créatures qui sont investies de l'étude de la Torah, qui n'ont pas la crainte du ciel. Rotseloma, kama et mafsidim. Ils perdent beaucoup. Shayu reouyim le maelia et liona gedola. C'est terrible parce que le fait d'étudier la Torah leur donne la possibilité d'atteindre un niveau supérieur, très supérieur. Varshav, Amala et Liona ne farlaem lera. Or, ce niveau supérieur qui est le fait d'être investi dans la parole d'Hachem, donc quelque part, ça les élève de la condition, on pourrait dire, instinctive, basse, eh bien, ça peut se transformer en négativité. Velo lera kemoshu etzel acherim, pas un mal comme tu trouves chez les autres. Rakioter veyoter kemoshu el baer, mais c'est une catastrophe. C'est ça ce qu'on dit. Lama mechir beyat ksil liknot chorma velev ain. Ve'azeh shaya loma oy alef sel gadol meod. C'est pas ce qu'on dit. C'est un grand malheur. C'est à quelqu'un, il n'étudie pas la Torah et il n'a pas tellement de crainte du ciel. Bon, c'est normal. C'est normal parce que, bon, il est pris par ses désirs, par sa faiblesse, par sa flemme. Bon, ok, c'est rien de spécial. Mais quelqu'un, il a un méchir, quelque chose de très très précieux dans la main. Il le gâche. Alors là, ça c'est vraiment, c'est très dommage. C'est comme, tu me donnes une bouteille de coca, je la mets à la poubelle. Bon, ça va, c'est pas bien grave. On donne un champagne super classe et je le fous à la poubelle. Ça, c'est vraiment très, très dommage, quoi. C'est du champagne, très bon champagne, avec un très bon Hirscher. Parce que très bon champagne, sans bon Hirscher, c'est pas trop drôle. Mais un très bon champagne avec le meilleur Hirscher, et tu le fous à la poubelle. Alors là, ça c'est oi, oi va voy. Alors ici, il y a quelque chose c'est quelque chose de dramatique, mais ce qui est extraordinaire dans le Maharal, je veux dire, c'est unique comme auteur le Maharal. Parce que ça, cette analyse comme ça. Analyser la problématique et pas moralisante. Parce que là, j'essaie actuellement, je fais un cours là le mardi soir sur la paracha, et je lis d'autres commentaires pour essayer d'apprendre quoi, d'autres choses. Et ben je trouve pas des commentaires comme lui, même des très 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 commentaires très célèbres, très magnifiques, etc. Mais lui, il analyse la chose. Il dit, le fait d'étudier la Torah t'enlève la crainte du ciel. Parce que tu connais Dieu. C'est paradoxe, c'est un paradoxe. Il te fait jouer dans sa cour. Dieu, il te fait jouer dans sa cour. Viens jouer avec moi. Viens jouer dans ma cour. Alors...
Et du coup, ben, t'as pas peur.
Ben, t'as plus peur.
La peur vient de l'inconnu.
Mais est-ce qu'on est...
C'est pareil. Pourquoi les gens, les communautés, les races se battent entre elles et les peuples, hein? Parce que je ne te connais pas, donc j'ai peur de toi.
Mais si
mais si je te connais, si on apprend à se connaître, j'aurais plus peur.
Si on joue au foot ensemble, etc. Si
on voit un pot, bien chez moi,
d'habitude, voilà. Une copine.
C'est le meilleur des cas, c'est dans le cas où ils sont rentrés avec peur, mais que par familiarité, la peur a disparu.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Dans des cas, on étudie sans peur, mille ratrilas.
Comme un reproche.
Souvent, dans le rof des cas, l'étude se fait sans peur, les ratrilas.
C'est vrai.
Aujourd'hui, dans une page de Gemara, qui rentre avec peur, Bichlal. Là encore, il a perdu par familiarité, mais on peut me dire que Bichlal, est-ce qu'on est éduqué aujourd'hui à...
Alors bon, d'ailleurs, vous voyez, moi j'ai entendu de Rabbi Bitbol, de Monsieur Frankel, qui m'ont dit au nom de Manitou qu'on a une page de Gemara, t'as que des Français. T'as Rashi et t'as Tosfot. Et quand tu étudies Rashi, tu étudies Tosfot. Ça veut dire, surtout Tosfot, c'est les élèves de Rashi. Que tu vois, par exemple, en notre étude de Gemara, on voit, t'as tout le temps Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils. Il dit à son grand-père, je suis pas d'accord. Mon grand-père, je suis pas d'accord, parce que ta 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 ta. Et le texte de la Gemara, Rashi l'avait rendu compte de manière simple, il dit, il faut le comprendre complètement différemment. C'est ça, Tosfot. Mais, y a pas de, comme dit l'autre, il n'y a pas de respect, mais un peu de respect pour Pépé. Non, je ne sais pas, aujourd'hui, quelqu'un, il te dit, voilà, je suis le petit-fils de Rav Obadiah Yosef. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voilà, oui, mais les décisions légales de Rav Obadiah Yosef, évidemment, elles sont contestables. Ah non! Non, non, il va prouver que son grand-père avait raison. Eh bien, tu fais Tosfot, il va prouver que son grand-père avait pas raison. C'est pas parce que c'est son grand-père, mais quand il a pas raison, il a pas raison. Voilà, mais un peu de respect! Un peu de respect, nous.
Pour les vieux.
Nous, par exemple, on va te prouver que toi, t'es un arrière-arrière-arrière petit-fils de Rashi. Tout d'un coup, tu vas dire, ah, non. Parlez pas sur Rashi. Là, les copains, moi, je vais essayer de défendre Rashi. Je vais prouver que Rashi a raison contre ceux qu'il conteste. D'ailleurs, c'est comme ça. Il y a un il s'appelle le Maginé Shlomo. C'est un descendant de Rashi. Il a dit, voilà, il a écrit un sefer, ça s'appelle Maginé Shlomo. Pour défendre Rashi des questions de Tosfot. Mais tu fais Tosfot, c'est les petits-fils de Rashi, c'est les élèves de Rashi. Rabbeinu Tam, Rashbam, c'est les élèves de Rashi. Et toi qui dis, je ne suis pas d'accord. Et même le texte, il dit, la Gemara, elle dit ça, non, il faut la comprendre différemment. Alors j'ai entendu, là, au nom de Manitou, que c'est pas un hasard si c'était des Français, quoi.
Esprit de contradiction, c'est ça?
Il y a un côté libre penseur, c'est comme ça. Et Chochmet Serfat, c'est Chochmet Serfat. Ça veut dire le creuset de nos maîtres, c'est la contestation. C'est les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes du Talmud. Mais c'est ça le talmudiste.
Et la Torah, à l'époque, elle était en France.
Elle était en France, oui, absolument.
Partout. Oui. Rouen, évidemment, Narbonne, machin, les trucs, partout.
Corbeil.
Yachiel
de Paris. Yachiel de Paris. Tous les petits bleds, vous êtes déjà allé à Giverny?
Oui, une fois.
Ouais. Tu vas à Giverny, il y a trois rues. Une des rues, des trois rues du petit bled là-bas, rue des Juifs. T'hallucines que rue des Juifs. Tu demandes là-bas aux gens à Giverny. Mais oui, où ils sont les Juifs? Ah oui, ils sont partis en 1280. Ou alors Sancerre. Il y a X années, j'étais allé avec ma famille passer les vacances. Évidemment. Alors on était allé à Sancerre. Sancerre, c'est une forteresse sur un piton rocheux. C'est dans la forteresse. T'as pareil, trois rues. Une des trois rues, rue des Juifs. Mais toute la région, c'est comme ça.
C'est marrant qu'il ait conservé un nom comme ça, alors qu'il y a des centaines d'années qui sont passées. Ah, mais de nos jours, on débaptise les rues. Enfin, on a toujours débaptisé des rues.
Pourquoi ils ont gardé
à Rambruy, puis ça, c'est pareil.
Comment?
Plutôt, bientôt les patelins.
T'es allé là-bas?
Où ça?
C'est un petit village, il n'y a rien.
Où ça? Là où il y avait Rabbeinu Tam.
Il y a une rue des Juifs là-bas, pareil.
Ah oui, pardon. Tous les patelins autour de Paris, c'est comme ça.
C'est extraordinaire. Rue des Juifs, il n'y a rien.
La rue, la Juiverie.
Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça l'étude de la Torah. Mais dit le Maharal, il nous aide à comprendre que à la fois c'est le niveau supérieur, mais de manière consubstantielle, il y a un problème. Moi, je me souviens, il y a un très grand maître qui est décédé il y a 15 ans, Rav Gedalia Nadel, un des plus grands maîtres de notre génération. Et Rav Abitbol, il dit, quand je le vois prier, je me demande comment il fait. C'était un esprit tellement frondeur, un esprit tellement contestataire et frondeur. Comment il peut se courber devant Dieu? C'est ça le sujet. Mais c'est ça la vitalité du peuple juif. Et tu vois, par exemple, pour ceux qui ont lu un peu du Lévinas, Lévinas, il dit que il le dit très bien, il est très bien. En tant que lituanien, vraiment, c'est la fibre lituanienne. C'est un des choses qui sont insupportables dans notre tradition, c'est que quelque part, on est athée. Tu peux pas étudier la Torah si t'es béni, oui. Tu vas étudier le Yalkout Yosef, d'accord. Yalkout Yosef, les conclusions légales, machin, Yalkout Yosef. Ouais, comme dit Rabbi Yitzhak Yosef, Sheriel Yamim Tovim, voilà, il a dit la plaque de Shabbat contre les Ashkenazim, on peut mettre les chalot qui sortent du congélateur sur la plaque directement, machin. Et voilà, et bidule. Et tu t'endors, quoi.
C'est ça.
Ça. Tu t'endors. Maintenant, si bah c'est pas l'étude. Moi, si j'aime bien Rav Yitzhak Yosef. J'adore Rav Yitzhak Yosef. C'est pas la question n'est pas là. Mais disons, c'est ça, c'est pas l'étude de la Torah. C'est pas un Talmid Racham. Un Talmid Racham, c'est quelqu'un qui dit Rav Yitzhak Yosef, il n'a rien compris. Je prends son livre, je fous à la poubelle. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Quand le Rav Neuwirth, il a sorti le Shemirat Shabbat Kilkata. Il y a des gens à venir voir qui le mettaient à la poubelle. Et dit, depuis quand on met des conclusions légales? Depuis quand on fait de la Torah un code de la route? C'est vivant, c'est dans la discussion. C'est la discussion de quoi? De la parole de Dieu, de quoi tu te mêles? Ben oui, c'est la Torah qui me demande de le faire.
Il faut bien arrêter les choses.
Comment?
Il faut bien arrêter les choses pour se conduire.
D'accord, mais tu limites. Tu limites quelque chose. Bon, vaste sujet, mais c'est le sujet en vérité. C'est le sujet. Mais concrètement, un grand Talmid Racham, je ne parle pas des gens comme nous, mais un grand Talmid Racham, il n'est pas inféodé au Shulchan Aruch. Il doit rendre compte du Shulchan Aruch, mais il n'est pas inféodé au Shulchan Aruch. Pendant des années, j'ai enseigné le Mishnah Berurah systématiquement. Dans mon Mishnah Berurah, j'ai noté quand est-ce que le Mishnah Berurah tranche contre le Shulchan Aruch. À toutes les pages. Pratiquement, à toutes les pages. Contre le Shulchan Aruch. Il le prouve. Surtout parce que lui, il suit le Gaon de Vilna, beaucoup. Gaon de Vilna, sur plein de choses, il est contre le Shulchan Aruch. Plein. Il te prouve. Bon, mais ça, c'est pas donné à tout à chacun. Mais c'est... Alors, quelqu'un qui finalement, il est en cavalier seul, comme ça, il est un Talmid Racham, avoir la crainte de Dieu, c'est pas évident, puisque quelque part, Dieu lui dit, fais mon boulot à ta place, à ma place. Fais mon boulot à ma place, c'est toi qui vas... Ouais. Rav Feinstein, au début du premier tome des Guérot Moshe, il dit... Il dit, Dieu a donné la Torah au Sinaï, il y avait le grand Sanhedrin, maintenant il n'y a plus de Sanhedrin, mais il y a moi. Là, il te dit ça, le mec. Il dit, voilà, je tranche la halakha, je suis à la place du Sanhedrin à notre génération. Il te dit, dans la production. Alors, c'est pas évident d'avoir la crainte de Dieu à ce moment-là. Mais c'est la grandeur du peuple juif. C'est ça qui fait c'est l'arme secrète du peuple juif. Mais d'un autre côté, c'est ambigu. Très ambigu. On continue.
La crainte de Dieu, c'est quelque part, c'est obéir à Dieu dans le sens que tu le contestes. Que tu tritures les textes qu'il te donne. La crainte de Dieu, c'est que tu lui obéis en donnant de la vie à son texte. En allant dedans.
Ouais, ouais.
C'est là que
tu crains
Dieu.
C'est là que je suis pas d'accord.
C'est là que tu crains Dieu. Ouais. C'est là que tu crains Dieu.
Ouais. Vraiment. Mais c'est ambigu. Voilà. C'est ambigu. C'est juste. C'est juste.
C'est là que tu crains Dieu. En contestant.
Si tu commences. Si tu
oui, parce qu'en vérité, tu lui confères un respect. Tu fais que sa parole, elle est vivante. Donc finalement, tu lui confères un immense respect.
Lucidité. Il y a une lucidité.
Un immense respect. Ouais. Quand nous on dit, mais Rachid dit n'importe quoi, c'est parce qu'on on a la conviction que Rachid dit pas n'importe quoi, justement, et qu'on n'a pas compris. Voilà. Mais quelqu'un de l'extérieur, il dit, mais comment vous pouvez parler de Rachid comme ça? Et comment vous pouvez... Comment,
mais, oui, excuse-moi, c'est...
Comment
ce phénomène de crainte et de contestation se répercute de... D'état ouais, ouais.
Et après, tu vas dire, ah, oh, c'est des libres penseurs. Mais jamais on est des libres penseurs. On est, au contraire, on est complètement humble.
Il y a un débat d'idées.
Complètement humble. Et ben, c'est ambigu. Non,
c'est extraordinaire.
C'est ambigu.
C'est parce que tu as la crainte que tu veux pas passer à côté d'une interprétation et d'une mauvaise interprétation. Et donc, tu vas contester, justement. Parce que tu as la crainte.
Bon. Mais c'est ambigu.
Mais c'est ambigu.
C'est vachement ambigu.
C'est paradoxal.
Ah, c'est total paradoxal.
C'est paradoxal.
C'est ça la spécificité du peuple juif. Ici, c'est un laboratoire d'idées. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu cherchais l'autre fois. Un laboratoire d'idées, ici. Ce travail de groupe.
Ouais. Mais vous pouvez voir, regardez, que l'œuvre absolument exceptionnelle du Maharal. Parce que nous, ça fait des mois qu'on est sur la crainte de... Ouais. On pourrait dire, bon, ça y est, il a tout dit déjà, le mec. Non, il a encore des pans entiers... sur un autre mode qui n'a rien à voir et tout à fait d'autres points. On y va. C'est à combien ils perdent, car ils étaient aptes à un niveau supérieur très grand, et maintenant ce niveau supérieur se transforme en destruction. Vélo les rats qui mochouet c'est la rérim, mais pas le mal, comme se peut trouver, je dirais, chez le commun, mais bien pire. Valzé, Chayar, Lomar, c'est là-dessus qu'il y a lieu de dire oï, malheur, Aleph, Sel, Gadol, Meod, sur une perte très grande. Rabbi Yenaï, Machiz, Rabbi Yenaï faisait cette publication. Gamken. Vayat Soek. Al Efset Gadol. Il hurlait sur cette grande perle. Michelo dira Vosé Charles et Dirato. Malheur à ceux qui n'ont pas de maison et qui font une porte pour aller dans la maison. C'est-à-dire, ils n'ont pas la maison et font le péristyle pour arriver à la maison. C'est absurde. Arrêt d'avarzé Pa'al. Shel Batala, c'est une action vaine. Shel Echinam, ou pour rien. Azé Shayar Litzok, là-dessus il y a lieu d'hurler. Qui cachait Yeshlo Torah, il a la Torah. Ven bo irat Hashem, irat Shamaim. Arrêt d'avoir Zé Bechinam. C'est, on dirait, un gâchis énorme. Il a la Torah, mais il n'a pas la irat Shamaim. Arrêter d'avoir Bechinam, c'est un gâchis. Kemo Michel lo Khatser, veosé lo Char, celui qui n'a pas la cour, parce que dans les maisons orientales, le c'est le patio. Tu as le patio, c'est là où les gens, l'espace de vie, c'était le patio. Il n'a pas le Khatser, il n'a pas le patio. Veosé lo Char, et fait une porte pour. Qui Elma ou Meshame sa char rasé. À quoi sert cette porte? Qui va chez Lo Beidira, puisqu'il n'a pas la maison. Car Mishiesh Lo Torah, quelqu'un qui est la Torah, mais Lo Irat Shamaim, il n'a pas la crainte du ciel. A Torah, Ibechinam, Vedavar Batel, La Torah, c'est un gâchis qui s'annule. Vikar, amachal, machemedamet mishiyeshbo Torah venbo irat shamayim. Alors, le principal de la parabole qui compare celui qui a la Torah et qui n'a pas la crainte du ciel à celui qui n'a pas la maison et qui fait une porte. Hein, en quoi, c'est quoi cette parabole? Qui a Torah va chokma ipetar veshar lichnos la bayit ou le chatser ajesha madira. La Torah et la connaissance, c'est une porte, une introduction pour entrer à la maison, dans la maison, dans le patio où c'est l'espace de vie. Ve imena petar. S'il n'y a pas la porte, az abayit naoul vesagour. S'il n'y a pas la porte, la maison est cadenassée et fermée. Car al yedei irat Hashem dirat adam etzel Hashem el barak yemoshe el ba'ir lemaala. Par la crainte de Dieu, l'homme vit auprès de Dieu. Donc c'est un vécu, on pourrait dire. C'est un vécu. Qui est necha davar, shehuim Hashem ilbara, rak irat Hashem. Car la seule chose qui est auprès de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est un axiome. Hein. Je le lis et je le traduis. Je ne dis pas que je comprends. Hein. C'est vrai que dans la Gemara, la Gemara, elle dit que malheur celui qui a un péristyle et qui n'a pas le patio. Voilà. Et que le péristyle, c'est la connaissance, c'est la Torah. Et le patio, le lieu de vie, l'espace de vie, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, la crainte de Dieu en quoi? C'est la crainte de Dieu, c'est la résidence. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il va, j'espère qu'il va expliquer. Qui est l'echad davar shu Hashem ilbarar? Tu n'as pas quelque chose qui est avec Dieu, seulement la crainte de Hashem. Comme dit le verset, Irat Hashem i Otsaro. C'est un verset dans Ishayahu. La crainte de Dieu, c'est son trésor. C'est la seule chose que Dieu possède dans le monde, c'est la crainte de Dieu. Le kar Irat Shamayim i Abayit. La crainte du ciel, c'est la maison. Valiede à Torah. Yeshlo petar veshar nichnos el bet dira. Par la Torah, il a une entrée pour rentrer dans la maison. Et s'il n'y a pas la Torah, cette pièce de vie est complètement fermée. Kadam agashmi yeshlo meser mavdil. Car l'homme matériel, qui est Adam agashmi, Yeshlo meser mavdil o mechitsa ben Hashem ilbara o ben Adam agashmi. Car l'homme matériel a un rideau qui sépare, une cloison entre Dieu et l'homme matériel. C'est-à-dire, nous, on n'a rien à voir avec Dieu. On est instinctif. Notre pensée, c'est une pensée instinctive. Tu vois, par exemple, tout le monde aujourd'hui va te parler de féminisme, tout le monde va te parler d'écologie. Mais, ou alors, t'en as, ils sont contre le féminisme et contre l'écologie. Mais t'as pas une troisième voie. C'est soit tu as les écologiques, toi tu as les écologies et l'écologo-sceptiques. Les féministes ou anti-féministes, mais t'as pas une pensée. T'as pas de pensée. On est comme dit Rabbi Bilbo, il dit tu penses comme tu pisses. Ça veut dire non, ça l'intérêt d'être synthétique.
Ça veut dire. Par pulsion, par...
C'est pas une pensée, c'est un jet. Mais on est comme ça. C'est ce que Marx avait très bien dit ça. Et dire on a une pensée qui est fonction de son milieu, de ses conditions, de sa sociologie. On défend le milieu dans lequel on est et on n'arrive pas à en bouger. On n'arrive pas à en bouger. Et donc, Hachem est complètement séparé de toute matérialité, donc on n'a aucun lien. Ça, c'est ce qu'il dit le monsieur. Qu'Adam Agashmi, Yeshlo Meser Mavdil ou Mechitza ben Hachem Itbarar ben Adam Agashmi. Car l'homme matériel a un rideau qui sépare, une cloison entre Dieu et l'homme matériel. Mais par la Torah, il y a une entrée. Par la Torah, il y a une entrée. D'ailleurs, c'est pour ça que l'étude de la Torah est extrêmement dure. Extrêmement dure. Pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi c'est incompréhensible? Parce qu'il faut se casser pour casser notre manière de percevoir les choses instinctives. Donc c'est ce qu'on appelle le Amal à Torah. C'est terrible.
Il faut passer de la pulsion à l'analyse.
C'est terrible. C'est physiquement terrible. C'est physiquement terrible. Un idé à Torah, Yeshlo Petar. Mais Zéchamar, Raval Adele Darta, Vetara le Darta Avi. Donc on est à la page d'après. C'est ce qu'il dit. Quel dommage, celui qui n'a pas la maison, parce que le but de ça, c'est pas seulement, comme qui dirait, la mécanique intellectuelle. C'est pas la dimension intellectuelle qui est le but. Le but, c'est que l'homme arrive à une proximité à Hachem. Voilà. La Torah, c'est un outil que Dieu nous a donné. Mais là, il y avait... j'avais reçu un clip, peut-être vous l'avez reçu il y a, je ne sais pas, 2-3 ans. C'était les Coréens de Samsung qui étaient allés à l'Yeshiva de Mir. Vous avez vu ça à l'époque? Et alors, il y avait un Coréen avec un Israélien qui l'accompagnait et qui interviewait des gens qui étudiaient. Et alors, il y avait un avraire style Yeshiva Trevron. Alors, il dit, là, ma talomed, ma matara, ze sipuk intellectuali. Tu te souviens, tu n'avais pas vu? Quoi?
Ouais, j'avais sous-titré en français pour mes élèves ce clip. Ouais.
Il était quoi, excellent, le mec.
C'est quoi?
Il faut traduire les mots maintenant. les mecs, attends, alors là, on a les stars. C'est une satisfaction intellectuelle. Il était bon, lui. Ouais. Là, le mec, mais tu sais, il y en a plein comme ça. Il y en a plein, c'est très juif lituanien, tu vois. C'est quoi pour toi l'étude de la Torah? C'est un délice intellectuel, une satisfaction intellectuelle. Toi, le mec, il a sa clope là. C'est pour qu'elle est intellectuelle. Oui. Tu te souviens?
Le brisqueur.
Il est excellent, le mec. Il est. Il est très bon. Mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Il y a un côté. Et dans les chivotes, excusez-moi, dans les chivotes, c'est très développé. Pourquoi c'est développé? Parce que des jeunes de 17 ans, de 18 ans, tu leur parles de la crainte de Dieu.
Tu vas être dégoûté.
Non, mais on a strictement rien à foutre. Oui, non, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font dans la vie. Alors, les rochers chivot, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils développent que leur kiff, au lieu que ça soit dans des jeux vidéo, ben, leur kiff, ça soit dans l'étude. Et ils kiffent.
C'est un peu le même système que dans les facultés. D'ailleurs, c'est transposé, c'est le même plaisir intellectuel d'apprendre.
approfondi. Ouais, mais c'est plus kiffant. Donc c'est il y a plus de kiff dans l'étude de la Torah. Il y a un kiff.
Mais c'est un mécanisme qui est mimélé ou c'est où il est. Il doit être volontaire. C'est-à-dire que l'étude amène à la crainte. Ou alors si on ne parle pas de ça au début, je risque pas un jour d'y arriver. Il y a pas de facto, parce que je rentre dans le monde du limoud, alors forcément je rentre dans le ratser de la crainte. Ou si je ne le sais pas au début, j'y arriverai. Je peux faire 20 ans de limoud.
Me semble-t il, c'est par la fréquentation des rachamim. C'est ce qu'on dit, gadol shimusha yoter melimouda. C'est mieux, c'est plus grand la fréquentation des rachamim que l'étude elle-même. Ça veut dire, si tu fréquentes des vrais talmides des rachamim et que tu vois ce paradoxe chez eux, comme tu as dit Philippe, tu vois ce paradoxe, à la fois le côté terriblement frondeur et quelque part humble, alors là, ça peut te donner l'idée, plus qu'un baratin, tu vois.
Oui, cette phrase-là, que la Torah n'est qu'une porte, il faut rentrer dans le ratzer de la Torah, tu dois mettre dans toutes les chivotes, en frontispice devant les chivotes.
Non, ils ne vont pas te le mettre.
Pourquoi ils ne le mettraient pas?
Salut. Par exemple, il y a... Bon, mais c'est très profond, ça. Celui qui a créé les chivotes modernes il y a environ 200 ans, c'est Raphaël de Volozhin. Mais il y a une centaine d'années, un de ceux qui a redonné un renouveau aux yeshivotes il y a environ 100 ans, c'est le Sabbat de Slabodka. Et j'ai lu un livre excellent. Il y a toute une série qui s'appelle Tnuat HaMoussar. Tu connais la série Tnuat HaMoussar? Tu connais pas par cœur la série Tnuat HaMoussar? T'as pas lu de Dov Katz?
Non.
Voilà, on en est arrivé.
Des religieux.
Voilà, on en est arrivé.
Imbatilekan.
Voilà.
C'est affligeant.
C'est affligeant. Il y a cinq tomes.
Paradoxe.
Il y a cinq tomes, ça s'appelle Tnuat HaMoussar. Là, je te conseille. On les a là-haut dans la bibliothèque.
Et ça reprend tout depuis Rav Yisrael Salanter jusqu'à...
Rav Zondel Salant, le Rav de Rav Salant. Tout, c'est de folie. Le troisième tome, c'est sur le Sabbat de Slabodka. Alors, Slabodka, c'est quoi? C'était une banlieue de Kovno. Kovno, aujourd'hui, c'est... Excusez-moi l'expression, je ne veux pas dire de gros mots, mais c'est Kaunas, c'est une des plus grandes villes de la Biélorussie actuelle. Hein. Si je ne m'abuse, la capitale de la Biélorussie aujourd'hui, c'est Minsk. Mais la deuxième ville, c'est Kaunas. Oui. Et c'était, en yiddish, on dit Kovno. Et Kovno, il y avait une énorme communauté juive. Et une des banlieues de Kovno, c'est encore aujourd'hui, c'est Slabodka. Et il y avait le Rav de Slabodka, qui a créé les Shiva de Slabodka là-bas. Et lui, donc c'était il y a un peu plus que 100 ans, il dit dans le livre que dans sa yeshiva, il y avait des gens qui étaient des gosses pieux et des gosses qui n'étaient pas pieux, qui n'étaient pas style pieux comme ça. Et le rav de Sabbat Slobodka, le rav de la yeshiva de Slobodka, il était pote avec les types les plus intelligents de la yeshiva, même s'ils n'étaient pas tellement froums. Parce qu'il disait, être froum, c'est un désavantage pour l'étude de la Torah.
Oui, c'est un frein.
C'est un frein. Mais le percutant intellectuel, c'est ça. Comme ça, tu peux avancer.
Ouais.
Et c'est... Ça ne te plaît pas, ça.
Tu sais, non, genre.
Mais c'est le sujet que aborde le Maharal ici. C'est casse-gueule. Bon, c'est casse-gueule.
Ça vaut le coup.
Parce que tu peux penser après que finalement, l'étude, ça n'est qu'un truc intégré. Et d'ailleurs, il y avait des effets très très pervers de l'étude dite...
Même une posture.
De l'étude dite lituanienne. J'ai discuté il y a y a 40 ans, avec des... quand il y avait encore des vieux de la vieille qui venaient de Russie ou de Lituanie ou de Pologne, il y avait un monsieur qui était à Nancy, dans la ville de Nancy, il vendait des costumes, évidemment. Et il me racontait, lui, il était à Kalisz, il venait de Kalisz en Pologne, dont ma famille vient de Kalisz, du côté paternel, vient de Kalisz. Et il me racontait que lui, il était au Parti communiste, évidemment, comme tous ceux de cette génération. Et après les grandes manifs, au début des années 50, les grandes manifs communistes, que les communistes au début 50, ils étaient au gouvernement, même quand Charles de Gaulle, il a fait ce premier gouvernement à la Libération, il y avait les communistes avec. La France était encore pas claire si elle allait tomber dans le bloc communiste ou non. C'était encore comme ci, comme ça. Donc les communistes étaient hyper balèzes. Et ce monsieur Braun, là, de Nancy, il m'a dit que quand il terminait les manifs, les énormes manifs des cocos, là, après, ils se retrouvaient, ils étudiaient la Gemara. Pour kiffer. Ils avaient grandi dans les yeshivotes. Leur kiff, c'était étudier la Gemara. Mais à part ça, ils étaient cocos, ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne mangeaient pas kasher, mais ils étudiaient la Gemara. Évidemment.
Si on mettait au frontispice cette phrase, la Torah c'est une porte, ça casserait tout ça. En fait.
Ça casse tout ça. C'est
trop religieux. Pas.
C'est trop religieux. C'est trop sèche. C'est trop sèche.
Ça me crée la.
Des sèmes de Taras. Non, mais il y en a qui prennent ça au sens simple. Il y a un midrash très connu, vous avez déjà entendu parler. Il dit que Dieu, il dit, abandonnez-moi, mais tu dis. Ouais, il y en a qui disent, bon, ok, ça va. Ça va, j'ai la permission. Mais c'est le sujet. Bon, il faut approfondir encore.
C'est oi, quand même.
Quoi? Non, c'est oi. Une catastrophe, mais...
On laisse le système prendre le risque du oi, quoi. On balise pas en amont en disant attention, le but c'est quand même
l'iratif. Alors, les chassidim, par exemple, tu parles avec un chabad. Oui. Tu parles avec des chabads. Je sais pas, t'as déjà rencontré des chabads.
Oui, ils sont présents là, on est, mais bon, c'est pas des penseurs comme vous avez dit.
Ouais, non, je parle des chabads, des vrais chabads. Je sais pas, vous avez déjà.
Non, qui se lève.
Monsieur, qui fait profil bas, là, tu as déjà rencontré des chabads. Alors, tu parles avec les chabads, les penseurs chabads. Eux, principalement, c'est le Tania, la chassidut. Et il y en a qui font de la Gemara. Mais pour eux, c'est pas la Gemara, c'est pas le principal. Pourquoi? C'est ça. Parce que pour eux, ça amène à des glissements. Et eux, d'abord, la crainte de Dieu. Mais le monde des yeshivot, c'est opposition frontale. C'est opposition frontale.
Et ça dérange pas. Hein.
Comment c'est, si ça dérange.
Non, ça dérange pas le monde des yeshivot. On voit une jeunesse qui n'est pas forcément engagée sur les Yerat Shamayim, les dérives, avec un haut niveau de réflexion sur la Gemara. Et c'est pas quelque chose qui va.
Ça va pas les transformer. Ça va dire.
Non. Le système reste comme ça.
Ouais. On est mal barré.
Voilà. L'identité juive, c'est pas craindre Dieu, c'est discuter la Torah.
Non, mais la finalité, c'est la. C'est la porte.
Pourquoi la discussion, la confrontation? Parce que la discussion, la confrontation, si toi, t'étudies, tout de suite, tu penses que t'as raison. Donc ça, c'est une pensée instinctive. Donc il faut se rentrer dans le chou.
C'est ça le problème. On est là pour ça.
Rentrer dans le chou. Soit c'est pour rentrer dans le chou, soit c'est pour développer une dimension d'humilité et un vécu. Un vécu, quelque part, d'humilité et de relation avec avec celui qui me donne la Torah. Mais c'est oui et non. Ok, on y va. C'est parti. Quelle heure il est? Allez voir. Ah, les mecs, là, ils ont... Ils font la sieste dominicale. On y va. Ramenez les dents, qui est Adam Azé, dira tout, etc. Klal.
Dit-il.
Car l'homme qui s'est fait la porte, mais qui n'a pas la maison, regardez, qui est Adam Azé, dira tout, etc. Klal. Car celui qui a la connaissance, sa maison, son vécu n'est pas auprès de Dieu du tout, il est encore plus loin de Dieu que n'importe quel pécom. Ou yoter rachom min Hashem yitbarach min adam acher ven l'arichkan. Il est encore plus loin de Dieu que quelqu'un qui n'aurait pas étudié. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, il a une perception de Dieu basique. En lui, il évacue complètement le vécu avec Dieu. Il est autosuffisant dans sa connaissance. Bevadai divrei Rabbi Shmuel ve divrei Rabbi Yenai ma she'amar Rabbi Shmuel oy laim le talmidei chachamim. C'est ça ce que dit Rabbi Shmuel ben Nachmanim. Malheur pour les talmudistes, à nous, she'en bo yirat shamim le gamrei, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Bevadai talmidei kemoze oy. Ce talmidra qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est sûr, c'est une catastrophe. Rabbi Yenai machiz al talmidra she'no nizar bema'asim. Rabbi Yenai proclame sur le Talmid Chacham qui ne fait pas attention à ses actes. Av ki no chote le gamre. On ne parle pas d'un fauteur véritable. Rak sheno nizar le gamre, mais il n'est pas respectueux dans les détails. Va ze lo shayar lomar oy. Mikol makor raval la détarta. C'était, il y a deux choses. Il y a le Talmid Chacham qui n'a pas la crainte de Dieu. Le Talmid Chacham qui ne fait pas attention à ses actes. Alors là, ça c'est oy. Maintenant, celui qui a fait une porte, mais qui n'a pas la maison, il dit chaval. Il dit il y a deux niveaux. Il y a le oy. Tu vois, tu as un talmid chacham qui finalement est négligent dans ses actes. Quand j'étais à Bnei Brak, on dit c'est quoi un talmid chacham, Michael? C'est quoi un talmid chacham? C'est quelqu'un qui ne dit pas Bamé Madikin à Kabbalat Shabbat. C'est quelqu'un qui ne dit pas Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Et je ne sais pas encore un troisième truc, tu vois. Ça, talmid chacham. Ça veut dire il sait que ce n'est pas obligé. Bon,
et qui étudie pendant la Khazara.
Voilà, qui étudie pendant la Khazara Tachat. Ça veut dire le Pekom, lui, il ne sait pas qu'est-ce qui est important ou pas important. Donc il fait toute la prière. Mais Talmid Chacham, il sait qu'est-ce qui est obligé, qu'est-ce qui n'est pas obligé. Ce qui n'est pas obligé, il le sait, c'est une perte de temps. Alors l'imbécile, il dit tout. Talmid Chacham, hein. Il est négligent. Mais oui, mais là c'est chaval. Parce qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il est négligent.
Il est négligent ou il est sélectif?
Négligent.
Et on voit ça, les gens voient ça.
Et les gens, ils voient ça.
On va le vécu communautaire.
Ok, allez, suite au prochain numéro, Baruch HaShem, là, c'est un. C'est...